Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Exceptionnellement, Catherine Ney n'est pas avec nous, mais elle sera là la semaine prochaine. Rassurez-vous, c'est bien Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et aujourd'hui, pour la 11e émission de cette saison, de Berlin, notre formidable correspondante. Et encore formidable, c'est un terme que c'est peut-être pas le bon parce qu'on l'utilise pas dans son vrai sens. Notre merveilleuse correspondante, Hélène Kohl. Et en studio, Justin Weiss, qui est historien, spécialiste de géopolitique et directeur du Forum de Paris sur la paix. Mais avant d'en venir à la paix, à l'Allemagne et au monde, on commence, comme il se doit, par le Canteloup de la semaine.
Allez, on va reparler de Chanteloup-les-Vignes. Christophe Castaner, bonjour. Oui. Vous vous êtes rendu sur le théâtre des affrontements.
Oui. Alors, écoutez, laissez-moi quand même vérifier dans mes fiches. Oui. D'après nos informations, il s'agirait plus d'un cirque que d'un théâtre. Vous parlez mais du enfin, théâtre attendez, des affrontements.
Mais on sait que c'est un cirque. Oui, mais quand je dis théâtre des affrontements, bah, c'est une expression, voilà.
Ah. D'accord, écoutez, je vous fais confiance, vous maîtrisez parfaitement la langue française.
Alors, vous avez dit que ces actes étaient odieux et inacceptables, je vous cite, « ces jeunes essaient de se faire du flic ». C'est l'expression employée. Hein.
Tout à fait, elle est triviale mais elle est réaliste. Tout à fait, c'est scandaleux. Et je le redis sur votre antenne, l'antenne d'Europe 1, je le précise, on n'a pas le droit de se faire un flic. À part, bien sûr, au Macumba Club ou au VIP IP Room dans le cadre d'une soirée. Mais en dehors de cela, c'est totalement intolérable.
Eh bien, merci Christophe Castaner.
Et donc, c'était Nicolas Canteloup imitant Christophe Castaner, mercredi sur Europe 1. Alors, dans le fond, on pourrait tout de suite, à propos de la France, regarder également l'Allemagne. Et Hélène Kohl, vous êtes avec nous de Berlin ?
Oui, bonjour à tous.
Bon, bonjour.
Merveilleux et formidable, Olivier.
Est-ce que vous avez, est-ce qu'on connaît en Allemagne des violences de ce type ?
Eh bien, non. Et en fait, c'est effectivement une conséquence aussi et aussi de l'histoire. Par exemple, pour Berlin, clairement, Berlin était encerclé par un mur, Berlin-Ouest. Donc, les populations immigrées qui se sont installées à Berlin-Ouest, elles n'avaient pas de banlieue où s'installer. On n'avait pas de banlieue où les installer. Et donc, elles se sont retrouvées, et c'était un petit peu l'ironie de l'histoire, collées à ce mur de Berlin, à ce mur de la honte que personne ne voulait voir. Évidemment, les Allemands bourgeois de Berlin-Ouest ne voulaient pas habiter le long de ce fameux mur de la honte. Et donc, ce sont les populations turques, essentiellement, qu'on a parquées dans des grands ensembles collés au mur de Berlin. Et puis le mur est tombé et ils se sont retrouvés en fait au cœur de Berlin, au milieu même de cette ville. Le quartier de Kreuzberg, par exemple, qu'on appelle le quartier du petit Istanbul, eh bien, il est à 300 mètres du mur de Berlin et il est à 2 stations de métro de l'Alexanderplatz. On est en un quart d'heure à la porte de Brandebourg. Ce sont des populations qui sont au cœur et donc il n'y a pas, je pense, déjà le problème qu'on peut avoir avec les banlieues françaises, ce sentiment d'être excentré, d'être oui. laissé à l'abandon dans des périphéries. Donc déjà, ça enlève le gros problème. Et puis, c'était une population immigrée plus homogène, puisque c'était essentiellement des Turcs. Et donc, je pense qu'il y a eu, c'est peut-être aussi un défaut, une reformation d'une certaine cohésion, d'une certaine communauté au sein de ces populations immigrées qui font que bah, y avait un tissu social qui était là malgré tout. Après, ça peut poser des questions. Gerhard Schröder avait parlé de société parallèle. Tout n'est pas rose, évidemment, mais en tout cas, ce type de problématique banlieue n'existe pas ou existe peu en Allemagne.
Alors, je tiens à veiller bien que ce ne soit pas exactement votre domaine de recherche. Est-ce que vous ne pensez pas que quand se multiplient des événements comme ce qu'on a vu à Béziers, ce qu'on a vu à Chanteloup-les-Vignes, ce qu'on a vu à Mantes-la-Jolie, au-delà même du problème de ces violences, ça marque dans l'esprit des gens une incapacité de l'État régalien et que du coup, ça accroît la défiance politique, qui est quand même un des mots de notre temps, la défiance à l'égard des politiques.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut rappeler une chose, puisque correspondante faisait référence à l'histoire, c'est qu'en effet, il y a eu des histoires urbaines différentes. Les villes se sont construites, et surtout les banlieues se sont construites différemment à partir des années 50 et de la crise du logement. On a construit à la périphérie des villes ces grands ensembles parce qu'il y avait des gens à la rue. Parce que, souvenez-vous, l'abbé oui. Pierre, hiver 54, etc. Et donc, dans les années 50 et 60, on a construit ces grands ensembles qui, peu à peu, ont vu leur population se modifier. Les nouveaux arrivants ont notamment investi ces zones-là parce que c'était le moins cher, parce que c'était là qu'ils pouvaient aller. Et donc, c'est créé à ce moment-là, disons, ces zones où l'État, en effet, ne peut pas changer la réalité, je dirais, foncière, immobilière de ces zones,
oui,
qui sont loin des centres-villes.
Une chose est de ne pas pouvoir changer la réalité foncière, une autre est de ne pas pouvoir venir à bout de 30 jeunes qui lancent un guet-apens à Chanteloup-les-Vignes à des policiers et à des pompiers et qui, d'une certaine manière, en gain de cause. Il y a quelque chose d'hallucinant pour les gens. On se dit, mais il n'y a plus d'État, quoi.
Bien sûr, mais c'est aussi une réalité structurelle. Votre correspondante parlait de Kreuzberg et en fait du communautarisme turc, oui, qui vit. Et je pense qu'en effet, parce que ces zones sont isolées, parce que souvent elles sont mal reliées au centre-ville, il y a un sentiment de possession de ces territoires et de cohésion qui fait qu'en effet, l'État a souvent du mal à affirmer son autorité, qu'on a des phénomènes extrêmes comme ça qui se déposent. Et c'est vrai que l'État, parfois, paraît comme ça impuissant.
Moi, je tirerais presque de ce que vous nous avez dit, Hélène Kohl, une conclusion totalement à contre-courant, politiquement incorrecte, qui va me valoir une petite flopée d'injures sur les réseaux sociaux, qui est que dans le fond, un des facteurs qui font que cette violence n'existe pas à Berlin, c'est qu'il y a un vrai communautarisme. C'est-à-dire qu'il y a une vraie structuration de la communauté turque, alors que chez nous, c'est plutôt la confusion, le nihilisme, le trafic, le mélange de tout ça. S'il y avait une communauté très structurée, elle ferait régner l'ordre.
Alors, là, on a parlé de la communauté turque. Berlin est confronté actuellement à une vague de criminalité venant de clans d'origine arabe plutôt, donc libanaise essentiellement. Et là, effectivement, on voit de nouveau un communautarisme.
D'origine arabe, là, on va se prendre une autre flopée, d'une autre tendance sur les réseaux sociaux.
Écoutez, oui, la réalité actuelle, le ministre de l'Intérieur allemand mène, oui, vraiment à Berlin une opération, parce que c'est vrai qu'il y avait, par exemple, une grande partie des boîtes de nuit, une partie des ce qu'ils appellent ici les Spielothek, donc les endroits où on peut jouer aux machines à sous, étaient tenus par un clan dans Berlin, et il y a une opération main propre actuellement. Et c'est vrai que là, pour le coup, on réalise combien cette communauté extrêmement organisée a eu la possibilité pendant des années de vivre parallèlement aux structures de la société allemande, et finalement, tout en se tenant très éloignée des policiers, il n'y avait pas de confrontation, mais c'est aussi parce qu'elle était organisée d'une manière différente. C'est en train de changer, puisque depuis un an et demi maintenant, la ville de Berlin s'en prend activement à ces problèmes de criminalité, et on va voir si, effectivement, avec les prochaines années, le fait que les populations immigrées sont maintenant déplacées en périphérie, ça c'est aussi une évolution au cours des 30 dernières années. Évidemment, ces quartiers prisés le long du mur de Berlin aujourd'hui sont des quartiers bourgeois. Il y a une forte flambée des prix de l'immobilier avec des quartiers, Kreuzberg, avec plus de 60% pour les prix des loyers notamment. Et donc, certaines populations qui sont remisées dans les périphéries, parfois même en dehors de la ville de Berlin, et ça crée des ghettos alors que jusqu'à présent, Berlin en tout cas, en était épargné.
D'accord. Alors maintenant, nous sommes le 9 novembre, je pense que le plus grand monde ignore que c'est donc l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. On en parle dans quelques instants.
Vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Olivier qui reçoit ce samedi Hélène Kohl, journaliste et correspondante à Berlin pour Europe 1. Et Justin Vaïs, historien et directeur général du Forum de Paris sur la paix qui se déroule la semaine prochaine.
4 novembre 1989, Wir sind das Volk, nous sommes le peuple, immense manifestation en Allemagne de l'Est qui n'est pas réprimée. 9 novembre 1989, dans la soirée, un officiel annonce que désormais les voyages sont libres et immédiatement libres. Et du coup, les Berlinois de l'Est partent à l'assaut du mur, rejoint d'ailleurs par les Berlinois de l'Ouest. Et un an après, ce sera l'unification de l'Allemagne. Écoutez ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon et écoutez bien la première phrase.
L'Allemagne de l'Est a été annexée. Ce n'était même pas constitutionnel. Ce n'était pas ce que demandaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient eux-mêmes faire une constituante, ils voulaient voter, ils voulaient se prononcer sur l'intégration Est et Ouest et sur la préservation d'un certain nombre de leurs acquis. Dans ce pays, un autre pays voisin a annexé toutes les usines du pays, changer toutes les institutions et modifier le régime de la propriété. Et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est, comme ça a été fait dans tout le reste de l'Est de l'Europe. Et que ce n'est pas une bonne chose.
Quand vous entendez ça, Hélène Kohl, qu'est-ce que ça vous provoque ?
Eh ben, je dis que c'est du révisionnisme, parce que en fait, les Allemands ont été consultés, les Allemands de l'Est ont été consultés. Alors évidemment, il y a eu l'immense enthousiasme de cet automne et de cet hiver 89, où on a pu penser que les gens étaient un petit peu aveuglés par leur grande joie et leur volonté d'avoir tout d'un coup la même chance et les mêmes droits, surtout, que les Allemands de l'Ouest. Mais tout de même, il y a eu en mars 90 des élections libres en RDA. À ce moment-là, l'Allemagne n'est pas réunifiée, c'est un pays qui est souverain. Et à cette occasion-là, il y a effectivement un débat lors de la campagne électorale, un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire après. Est-ce qu'on est au début, il disait « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, puis ensuite, il y a eu « Wir sind ein Volk », nous sommes un peuple. Alors, est-ce qu'il y a la volonté d'unifier ces deux peuples ou bien au contraire, est-ce qu'on cherche une voie propre à l'Allemagne de l'Est? C'était notamment la position du parti vert est-allemand qui a mené de grands débats dans cette question. Il faut savoir que cet hiver-là, en Allemagne de l'Ouest, partout, en Allemagne de l'Est, pardon, partout, il y a des tables rondes citoyennes qui se réunissent, il y a un bouillonnement d'idées politiques. Et finalement, à l'issue de cette campagne électorale, le parti qui gagne en mars 90 largement les élections, c'est le parti qui demande la réunification sur le modèle qu'on va connaître après. Donc c'est faux de dire qu'il s'agit d'une annexion à partir du moment où il y a eu des élections libres et que les gens ont été consultés et qu'ils ont voté et que c'est finalement leur volonté qui a été appliquée.
Donc ça c'est la partie totalement fausse. Est-ce qu'il n'y a pas une partie, Justin Weiss et puis vous Hélène après, est-ce qu'il n'y a pas une partie au moins partiellement vraie qui a été dans la radicalité et la violence, entre guillemets, sociale du changement de régime, du passage du système socialiste collectiviste à un système capitaliste en quoi 3 ans où toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises allemandes de l'Est ont été privatisées d'un seul coup, une partie non négligeable d'entre elles ont été purement et simplement fermées, le chômage a explosé. Il y a quand même eu aussi de ça, Justin Weiss, non ?
Oui, mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'appareil productif de l'Allemagne de l'Est, qui était d'ailleurs un des plus avancés du système communiste, du système du bloc de l'Est, comme on disait, donc qui était un peu la pointe, était en réalité très en retard sur les économies de l'Ouest, sur les économies occidentales avancées. Et donc, il y avait un travail de remise à niveau gigantesque. Et c'est vrai qu'il y a eu de la souffrance sociale, mais il y a eu aussi des efforts extraordinaires faits par les Allemands de l'Ouest, puisque Helmut Kohl a décidé d'une façon, a fait un geste qui était un geste politique et qui n'était pas un geste économique. Le geste économique aurait consisté, évidemment, à laisser jouer entre le Deutschmark de l'Est et celui de l'Ouest une forme de change qui reflétait l'état des deux économies. Mais non, lui, il a décidé qu'un Deutschmark de l'Est vaudrait un Deutschmark de l'Ouest. Et évidemment, c'était considérablement surévaluer l'économie de l'Est. Donc, il y a eu aussi un effort énorme fait par l'Ouest à ce moment-là. Et ça, il faut s'en souvenir.
Il faut s'en souvenir. Et pourtant, Hélène Kohl, il y a un mot que j'ai pas mal entendu ou lu ces derniers jours en essayant de suivre un petit peu les actualités sur ce thème, qui est le mot « ostalgie ». Alors « ost », ça veut dire « est », donc c'est l'Allemagne de l'Est, c'est « Ostdeutschland ». Et vous voyez bien « nostalgie »,« ostalgie », comme quoi une partie des habitants de l'ex-RDA, de l'ex-Allemagne de l'Est, commence à se dire « c'était mieux avant », on avait la santé gratuite, on avait du boulot. Évidemment, on n'avait pas la liberté, mais on vivait en sécurité et on vivait mieux.
Alors, d'abord, je vais vous corriger, si vous le permettez. Ce mot de ostalgie, les Français l'adorent, on l'utilise énormément. Moi, je ne l'ai pas du tout vu cette semaine ici dans les médias allemands.
Bah, vous étiez en Allemagne et moi en France, donc c'est assez normal.
Voilà.
Oui.
Exactement. Non, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément un débat. Il a pu l'être il y a 20 ans, pour les 10 ans de la chute du mur de Berlin. Je me souviens qu'il y avait un peu une nostalgie. Les gens s'habillaient encore avec leurs vieilles chemises des mouvements de jeunesse communiste. Il y avait un petit peu une volonté de réécouter la musique, etc.
Bye, Lénine, c'est fini.
Voilà, exactement. Il y a eu, entre-temps, il y a eu la vie des autres quand même, hein, qui a un peu changé et ouvert les yeux. Voilà.
Formidable film,
après, oui. Après, c'est vrai, et ça a été frappant, et ça a été notamment illustré par les élections, les résultats des élections régionales dans l'Est cet automne, hein, c'est qu'il y a un oubli, en fait. Et c'est que ça, on le voit clairement dans les sondages, beaucoup d'Allemands de l'Est ne se souviennent pas de la réalité de ce que c'était la RDA. Et puis c'est assez simple, en fait, parce que pour s'en souvenir, En gros, il faut avoir vécu au moins 30 ans dans ce pays, c'était il y a 30 ans. Donc en gros, ce sont des gens qui ont 60 ans et plus qui aujourd'hui savent réellement ce que c'était la réalité de la vie en RDA. Pour les autres, ils l'ont appris par leurs enseignants, par leurs parents, tous ceux qui finalement sont restés en RDA. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un opposant au régime de RDA qui m'a raconté ça il y a quelques semaines et qui me disait « Les gens sont partis massivement à l'ouest, parfois contraints parce que leur entreprise était fermée. Ceux qui sont restés, c'est finalement ceux qui... n'avaient pas trop de problèmes avec le régime de RDA. Et ce sont eux qui, après, ont transmis lentement à leurs enfants cette idée de « oui, mais bon, on pouvait se loger pour 50 Deutschmark ». Moi, j'ai une jeune fille qui m'a dit « ma mère pouvait se loger pour 50 Deutschmark ». Je lui dis « mais il n'y avait pas de Deutschmark ». ».« Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça, je ne savais pas ». Donc, vous voyez, on transmet comme ça des fake news. Aujourd'hui, on dirait des fake news. Et c'est très intéressant de voir comment les réseaux sociaux et cette espèce de... et surtout une manipulation politique de la part de ce parti d'extrême droite AFD qui est très, très fort à l'Est et qui s'est positionné en l'espace de 6 mois comme étant le parti des gens de l'Est.
On va y venir.
Alors, juste pour revenir sur la radicalité sociale.
J'ai quelques exigences, vous savez, qui font qu'on peut être réglé en fin de mois. Et donc... on va y revenir, mais avant, je vais vous poser à vous et à Justin une question personnelle sur ce fameux jour de novembre 89. Vous allez avoir le temps de deviner laquelle, et nos auditeurs l'attendent avec impatience dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis.
Justin Weiss, historien et directeur général du Forum de Paris sur la paix, et Hélène Coll, journaliste et correspondante à Berlin, sont vos invités, Olivier Duhamel, ce matin dans Mediapolis.
Et vient la question personnelle, un peu indiscrète, mais vous êtes des personnages publics, donc on pourrait trouver la réponse si vous ne la donniez pas. La question est, vous aviez quel âge et vous étiez où au moment de la chute du mur, Hélène ?
J'avais 10 ans
ouais.
Et je commençais à apprendre l'allemand à l'école de la République française.
Ouais.
Et évidemment, nous avons parlé de cet événement en classe.
D'accord.
Que j'ai suivi à la radio déjà,
ah
par
oui
ailleurs.
Sur Europe 1 ?
Alors là, vous me posez une colle. En tout cas, à la radio, oui.
Très bien. Et vous, Justin Weiss ?
Moi, j'étais un peu plus vieux. J'avais 16 ans, j'étais en seconde. Et moi, je l'ai beaucoup suivi à la télévision. Et moi, ce qui me reste en mémoire, c'est ces manifestations hebdomadaires. Parce qu'il faut se souvenir de ça. Il y a eu une pression très forte dans tous les mois qui ont précédé la chute du mur. C'était, au fond, partir à l'assaut des murailles peu à peu. Avec ces populations qui se réunissaient tous les samedis, c'est parti de Leipzig, si je me souviens bien, ouais. et qui montre que voilà qu'on n'était pas dans l'annexion, qu'il y avait une demande très forte de que le mur tombe.
Je crois que toutes les personnes de 10 ans et plus se souviennent de Frédéric Mion, mon ami le directeur de Sciences Po, par exemple. Il était en cours d'actualité à Sciences Po, fait par un grand spécialiste de l'Allemagne qui était Alfred Grosser, et tout d'un coup, le directeur de Sciences Po de l'époque, Alain Lancelot, est rentré dans l'amphithéâtre, il a dit « Le mur de Berlin vient de tomber ». Et ça a été, il s'en souviendra toute sa vie. Donc tout le monde est un peu comme ça. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Hélène Coll, cette parenthèse faite, mais je pense qu'elle était aussi intéressante pour nos auditeurs. Vous évoquiez la poussée de l'extrême droite de l'AFD, de Alternative für Deutschland, une alternance pour l'Allemagne. Écoutez un Français qui trouve que droite et extrême droite et ultra-droite, tout ça devrait s'unir, Dupont-Aignan.
Il faut tirer les leçons de 2017, c'est-à-dire avoir un bon programme, un bon candidat et être uni. Je suis le seul à avoir fait le geste de l'unité. J'aimerais que les Républicains, Debout la France, le Rassemblement National, soient capables de s'entendre, soient capables d'avoir un programme sérieux.
Donc une alliance de toutes les droites.
Une grande coalition, pas des droites, des patriotes. Une grande coalition des patriotes. Pour battre Emmanuel Macron et arrêter une politique désastreuse sur le plan de la sécurité, de l'immigration et du pouvoir d'achat. Il y a un grand boulot encore, c'est pas gagné, on le voit, le sondage montre qu'il est réélu, et moi je ne veux pas qu'il soit réélu.
Donc ça c'était sur CNews lundi, Nicolas Dupont-Aignan, invité de Gérard Leclerc. Alors je crois savoir, Hélène Coll, que vous insistez sur les différences entre Alternative für Deutschland, l'AFD et le Rassemblement National, mais quand même quand j'entends ça... sécurité-immigration, il y a au moins une convergence de polarisation sur ces sujets entre les droites ultra en France et en Allemagne, non ?
Oui, absolument. Alors l'AFD n'est pas née d'un rejet de la politique migratoire de Merkel, il est né quelques années avant, en 2013, d'un rejet de la politique d'aide à la Grèce, donc c'est un rejet de la politique européenne, la politique financière européenne, si vous voulez, mais effectivement...
Oui, et de l'altérité-phobie, de la phobie de l'autre aussi, de l'étranger quand même.
Exactement, en fait. C'est sur ça qu'il a prospéré à partir de 2014, 2015, 2016, 2017. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce débat sur l'immigration en Allemagne, il est un petit peu retombé. Les choses, finalement, ne se passent pas si mal que certains cassantes voulaient les présenter il y a quelques années. Et du coup, vraiment, là, au cours des dernières élections régionales en Allemagne, alors c'était aussi peut-être le fait qu'elles étaient toutes en Allemagne de l'Est, eh bien, l'AFD a un peu retourné son discours. C'est toujours l'Allemagne de l'Est, géographiquement c'est l'Allemagne de l'Est,
pardon,
mais ce n'est plus
d'accord.
L'Allemagne de l'Est politique, si vous
d'accord,
voulez.
D'accord, d'accord.
Mais effectivement, la Saxe, le Brandebourg et la Thuringe qui ont voté cet automne ont assisté à une campagne électorale de l'extrême droite qui était sur deux pieds, si vous voulez. Le premier pied, c'était l'immigration et la sécurité. Et là, vous avez 100% raison de dire qu'il y a vraiment des parallèles à faire avec ce qu'on peut connaître en France ou dans d'autres pays européens. Et le deuxième pilier de la campagne, qui a pris une place énorme, c'était flatter les Allemands de l'Est dans leurs particularismes régionaux, et notamment le fait qu'ils étaient des fameux aussi, des gens de l'Est, qui ont eu leurs grandes heures de la révolution de 89, et que ce régime dirigé par Merkel aujourd'hui serait comme la RDA de l'époque, un régime qu'il faut faire tomber en descendant dans la rue. On a eu des meetings assez lunaires où les patrons de l'AFD disent clairement qu'ils se présentent comme étant les nouveaux opposants au régime, comme autrefois les gens qui sont descendus dans la rue, en disant « nous sommes persécutés, nous sommes diffamés dans les médias, nous sommes dénoncés sur notre lieu de travail ». C'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Le fait même qu'ils puissent s'exprimer en public et qu'ils aient la place dans les médias allemands est la preuve même que l'Allemagne réunifiée d'aujourd'hui n'est pas la RDA, mais ça marche. Et c'est vrai que moi, j'ai senti un basculement complet, et on revient un petit peu à notre thématique du 9 novembre, à savoir que jusqu'à il y a un an, deux ans, les Allemands de l'Est avaient une volonté très forte de ne pas être considérés comme des Allemands de seconde zone. Ils voulaient être des Allemands comme tous les autres. Et là, depuis deux ans, je fais beaucoup d'entretiens, d'interviews avec des gens qui nous disent « Mais vous savez, finalement, nous, on est différents. Et ces valeurs que Merkel représente, ce ne sont pas nos valeurs. Et nous, on veut quelque chose de différent. » Et c'est vrai que cette AFD, qui est extrêmement forte à l'Est, est en train, au niveau national, de prendre une coloration régionaliste, si vous voulez. Et ça va être très intéressant de voir au prochain congrès du parti dans deux semaines si c'est l'aile Est qui prend la tête de ce parti. Ça sera un parti qui va vraisemblablement disparaître à l'Ouest parce qu'il défend des intérêts régionaux, tout simplement.
Et ça, c'est à la sauce allemande, si je puis dire, une constante des mouvements populistes, cette structuration quasi paranoïaque du « nous » contre « eux ». Et « nous » qui prétendront être le peuple contre « eux », ceux d'en haut. D'où ma question à Justin Weiss. Comment on fait pour arrêter ces vagues populistes en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, du « nous » contre eux? Et il nous répond dans quelques instants.
De 10h à 11h, c'est Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1. Olivier, vous recevez aujourd'hui l'historien et directeur général du Forum de Paris sur la paix, Justin Weiss, et la journaliste et correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Et donc la question était, Justin Weiss, comment est-ce qu'on fait pour contredire les vagues populistes dans ce qu'elles peuvent avoir de commun, notamment dans la xénophobie à travers le monde, en tout cas à travers l'Occident.
Il y a la xénophobie, mais il y a aussi un phénomène de fond qui est la montée des inégalités. Et on voit bien qu'après la crise de 2008, le contre-coup, quelques années après, ça a été cette montée en puissance des populistes, avec le sentiment que les perdants de la globalisation, on l'a vu aux États-Unis dans l'élection de Trump, on l'a vu avec le Brexit, on le voit en France aussi, ne se satisfont pas du sort qui leur est fait. Donc il y a une question économique derrière, il n'y a pas simplement une question d'identité, une question d'immigration, etc., même si ces questions-là peuvent se greffer, s'ajouter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a d'abord, je pense, en effet, un traitement de fond des inégalités générées par la mondialisation, par la technologie, etc. Et puis, il y a aussi un traitement de vérité. Quand le président de la République, par exemple, dit non, on ne va pas élargir, on ne va pas commencer les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie à l'Union européenne, évidemment, ça déplaît beaucoup aux Européens concernés et à beaucoup de pays, parce que ces pays ont fait des efforts pour rejoindre l'Europe. Mais d'un autre point de vue, son discours est un peu une réponse aux populistes, c'est-à-dire qu'il dit, non pas pour des questions migratoires, mais parce qu'il dit, faisons en sorte que ça fonctionne, c'est-à-dire que ce gouvernement de l'Europe, que cette Union européenne fonctionne avant de l'élargir à des nouveaux membres.
Et il répond... Il distinguer la Macédoine de l'Albanie.
Oui, d'ailleurs, il le fait dans l'interview de The Economist de jeudi. Il dit qu'en effet, les deux cas étaient différents, mais que là, il faut d'abord que nos institutions fonctionnent, y compris les institutions européennes, avant qu'on pense à élargir à d'autres pays. Et ça, je pense que c'est aussi une réponse au populisme.
Et une autre réponse au populisme, ce sont les révoltes qui se multiplient au Liban, au Chili, je cite ces deux-là parce que ce sont celles qui se ressemblent le plus, qui continuent en Algérie, qui existent et qui sont atrocement réprimées en Irak. Et il y a au moins un point commun qui se pense, alors là pour le coup n'existe pas en Allemagne, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'AFD ne progresse pas plus. Le point commun, c'est, comme vous l'avez dit Justin Weiss, l'explosion des inégalités, des inégalités beaucoup plus importantes entre les plus riches et les autres que ça n'était le cas autrefois, et la corruption. Et la corruption. Peut-être que c'est pas parce qu'il y en a plus, mais qu'elle est plus révélée, que les juges sont plus actifs, peu importe. Mais il ne se passe pas une semaine sans que vous ayez une affaire de corruption, que ce soit dans une petite ville ou dans une grande. Et puis en plus, si on prend la corruption au sens le plus large, pas seulement monétaire, mais toutes les formes d'abus des dirigeants et des dirigeants de toutes sortes, c'est encore plus fort. En Allemagne, il n'y a pas ce problème, Hélène Kohl.
Alors, moi, ça me frappe vraiment, quoi. À chaque fois que je suis en déplacement en Allemagne de l'Est, quand on demande aux gens, quand je leur demande, mais alors, comment vous allez, vous, tout ça? Et les gens disent, ah ben, on est satisfait, voire très satisfait de notre situation économique. 88% des Allemands de l'Est. Donc, à Chemnitz, l'an dernier, alors que la ville était sous d'énormes tensions et que l'extrême droite a vraiment prospéré, les gens disaient, mais nous, on va très bien, on a du travail, tout va très bien. C'est vrai qu'il y a encore une différence de revenus entre l'Est et l'Ouest, mais globalement, le rattrapage de l'Est entre 2000 et 2017, je ne parle pas de la décennie 90 où effectivement, il y a eu cette violence sociale des privatisations et des liquidations d'entreprises d'une manière massive, mais là encore voulue par le dernier parlement de la RDA, c'est important de le rappeler. Mais entre 2000 et 2017, vous prenez la Saxe-Anhalt par exemple, il y a eu plus 32% d'augmentation du revenu moyen. On a un rattrapage colossal. Aujourd'hui à Chemnitz, quand vous avez 41 000 euros par an, vous vivez mieux que quelqu'un qui a 79 000 euros par an à Munich. Donc il y a eu ce rattrapage qui a été fait. Certes, il y a encore 20% de moins, mais avec le coût de la vie, finalement, ça se lisse. Il y a quand même des inégalités symboliques très, très fortes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse encore énormément. Il n'y a aucun patron du DAX qui vient de l'Est, aucun président de tribunal qui vient de l'Est, aucun président d'université, et seulement un haut fonctionnaire dans le gouvernement qui vient de l'Est. Alors, on a Angela Merkel, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette violence symbolique, elle pèse vraiment. Et on l'a senti vraiment cette semaine lors des commémorations, et a fortiori encore ce week-end.
Oui, ça c'est d'ailleurs, vous avez bien fait de citer ces données sur les, dans le fond, sur la sur l'absence dans les élites de gens qui viennent d'Allemagne de l'Est. Mais c'est dans des proportions, vous venez de citer les chiffres, qui sont totalement considérables. Et ça
et
doit
qui
être...
et qui s'accentue même.
Oui, pardon, je vous ai coupé.
Et qui s'accentue même, parce qu'au début des années 2000, il y avait plus de personnes, puis maintenant on voit que finalement, on revient sur une domination de l'Ouest. Les Allemands de l'Est ne se sentent pas représentés.
D'accord. Bon, alors il y a d'autres aspects qu'il faut évoquer maintenant. Justin Weiss a fait allusion à l'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist. Plus de géopolitique et internationale, on y vient dans quelques secondes, mais c'est passionnant, vous allez voir.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos invités du jour. Hélène Kohl, journaliste et correspondante à Berlin pour Europe 1, et Justin Weiss, historien et directeur général du Forum de Paris sur la paix qui se tient la semaine prochaine.
Alors on va venir à l'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist, mais avant, il y a un sujet médiapolitique s'il en fut qui m'a été signalé par Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement de l'Institut Montaigne qui surveille pour nous les médias internationaux. Et il s'agit du piratage numérique qui risque de se produire à nouveau dans des élections, autrement dit média, police, piratage numérique dans les élections législatives qui vont avoir lieu le 12 décembre au Royaume-Uni. Et c'est sur Politico que l'article dit que le scrutin du 12 décembre On craint que le scrutin du 12 décembre ne soit de nouveau affecté par des interférences numériques clandestines. Nous devons nous attendre à ce que le système actuel reste en ruine, a déclaré Damian Collins, qui est député conservateur et qui préside le comité numérique du Parlement britannique. Les groupes de campagne fantômes qui défendent des intérêts différents mais ne sont officiellement connectés à aucun parti arriveront encore à faire entendre leur voix en ligne, ajoute-t-il. Et du coup, à cause du Brexit, on n'a pas du tout fait le travail qui était prévu en la matière. Des propositions publiées au début du mois de mai, juste avant l'annonce de la démission de Theresa May, prévoyaient notamment de poursuivre en justice ceux qui intimident d'autres personnes en ligne, de renforcer les efforts de transparence lorsque des groupes ont acheté de la pub sur les plateformes en ligne comme Facebook. Or, rien n'a été mis en place. Je cite à nouveau Kate Domett, cette fois-ci universitaire à la Sheffield University. Ce qui me préoccupe, c'est que nous ayons maintenant signalé toutes les lacunes du règlement existant et nous ne sommes toujours pas en mesure de retrouver et de vérifier le matériel de campagne en ligne. Nous sommes incapables de dire ce qui est une activité politique numérique coordonnée et ce qui ne l'est pas. Alors juste un mot sur ce sujet, Hélène Cole, peut-être avant d'en venir à l'Europe, à l'OTAN et à Macron et The Economist. Est-ce que la question des interventions intempestives et anonymes en ligne pendant les campagnes électorales se pose aussi en Allemagne ou pas du tout ?
Oui, elle s'est posée notamment il y a 2 ans déjà lors des dernières grandes législatives de 2017. Il y avait eu effectivement des mises en garde des services de renseignement allemands en disant on ne pourra pas contrôler certaines pages sur Facebook ou sur Twitter ou dans les réseaux sociaux, si certains propos qui sont tenus ne sont pas des propos qui sont des propos à des fins de manipulation par des puissances extérieures ou tout simplement des groupes d'influence extérieure ou bien interne et communautaire en Allemagne. Donc ça, c'est clair. La question se repose actuellement en ce moment même puisque le Parti social-démocrate se cherche un chef depuis le mois de juin. Et donc, il y a une procédure de vote interne qui a lieu sur Internet. Et aujourd'hui, les choses sont claires. On ne sait pas, en fait, s'il ne peut pas y avoir des manipulations pour désigner qui sera le prochain patron du SPD, des manipulations en ligne.
Et bien, voilà qui va contribuer à réconcilier les citoyens avec la démocratie. Justin Weiss.
Ça existe déjà maintenant depuis plusieurs années, cette manipulation en ligne. On l'a vu, l'impact très fort sur l'élection de Trump, sur le Brexit, etc. Là, il y a deux remèdes. Il y a un remède qui est national, c'est-à-dire il y a une réglementation qui peut être adoptée au niveau national. Mais on sait bien que ça ne suffit pas, parce qu'Internet est global. Parce que Facebook, Twitter et les autres, ce ne sont pas des entreprises françaises, ce ne sont pas des entreprises britanniques, ce sont des entreprises américaines et qui répondent plus ou moins aux régulateurs. Et donc, la solution, elle doit aussi être internationale. Et donc, c'est une des choses qu'on fait au Forum de Paris sur la paix, c'est justement essayer de faire avancer ces politiques internationales qui dépassent les frontières parce que plein des problèmes qu'on a maintenant dépassent les frontières. Cette question des manipulations numériques, la question, je sais pas, du changement climatique, des migrations, etc. Et donc, c'est ça le travail qui sera fait, notamment mardi et mercredi.
C'est quoi, en gros, d'ailleurs, votre Forum pour la paix ?
Le Forum de Paris pour la paix.
En fait, rapidement, parce que la pub, c'est tout à l'heure, mais juste pour qu'on comprenne un peu.
En deux mots, on sait que maintenant, la plupart des grands problèmes qui se posent au niveau global, c'est-à-dire, en effet, c'est pour ça que c'est un bon exemple, ces manipulations numériques, parce que le niveau national ne suffit plus et que pour... Alors regardez, le problème de la biodiversité, par exemple, on ne va pas la régler en national, on ne va même pas la régler en européen, il faut les
autres. Le forum,
et donc, ce que fait le forum, c'est de rassembler les chefs d'État, on aura plus d'une trentaine de chefs d'État, les organisations internationales. L'impulsion a été donnée par le président Macron en 2017 et la première réunion, c'était en moment du 11 novembre 2018 pour la commémoration des 100 ans. Parce que les questions qui se posent de stabilité du monde, qui nous affectent directement, se posent au niveau international. Et donc, on rassemble les chefs d'État, les ONG, les entreprises, les fondations et d'autres, pour faire avancer ce travail collectif, disons, de répondre aux grands défis de la planète,
et
autour de projets
concrets.
Et on fait ça une fois par an à la Grande Halle de la Villette.
Et c'est de la tchatche ou il y a un peu plus ?
Ah non, tout le travail est organisé autour de projets et d'initiatives. Alors, par exemple, on parlait du numérique. Il y a un texte très important qui a été adopté l'an dernier dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, avec justement en multi-acteurs, comme on dit, c'est-à-dire à la fois avec des entreprises, des États et des organisations internationales. C'est l'appel de Paris pour la cybersécurité, parce que l'ONU n'arrive pas pour le moment à se mettre d'accord, et donc plus de 500 entreprises, États et groupes de la société civile ont signé, et c'est ça qu'on fait au Forum de Paris dans ces différents domaines globaux.
Donc il y a des vieilles institutions qui ne marchent plus, on en invente de nouvelles, finalement plus souples, plus dynamiques, c'est ça qui est intéressant. Et à propos des vieilles qui ne marchent plus, il faut noter... Noter quoi ? Vous verrez dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui est entouré ce samedi par Justin Weiss, historien et directeur général du Forum de Paris sur la paix, et Hélène Kohl, journaliste et correspondante à Berlin pour Europe 1.
Et cette semaine, Emmanuel Macron a donné une très longue interview au grand hebdomadaire The Economist, dont évidemment on a assez peu parlé sur les réseaux sociaux qui préfèrent consacrer des heures et des heures aux crétineries ou abominations d'une ex-journaliste de l'incorrect sur le thème quand on est au SMIC, on divorce pas ou des conneries de ce genre. Mais il y a quand même des gens sérieux qui ont lu et relu cette interview parce qu'il y va carrément. Et il annonce notamment que l'OTAN est en état de mort cérébrale, donc l'alliance atlantique entre l'Europe et les États-Unis, le Canada et d'ailleurs accessoirement la Turquie, est en état de mort cérébrale. Comment est-ce que les personnes, je ne parle pas donc des réseaux sociaux, mais je parle des politiques, des responsables de toutes sortes, comment est-ce que ceux qui l'ont regardé ont réagi en Allemagne? Helmut Kohl qui est avec nous de Berlin, et après Justin Weiss nous parlera du fond de son point de vue à lui.
Si vous m'appelez Helmut Kohl, je vais vous appeler Gerhard Schröder. Hein.
Oui, je me suis dit pendant toute l'émission, une fois tu vas aller trop vite, tu feras pas gaffe et tu diras Helmut au lieu d'Hélène. Mais enfin, c'est flatteur, vous êtes une chance, vous êtes la chancelière des envoyés spéciaux et des correspondants à l'étranger, c'est ça qui explique l'erreur. Alors dites-moi.
Voilà. Alors, en parlant de la chancelière, elle a réagi effectivement à cette interview d'Emmanuel Macron, Angela Merkel, qui a déploré l'utilisation de mots aussi brusques, c'est ce qu'elle a dit, et en précisant que ce n'était pas sa vision de la coopération avec l'OTAN.
Elle a dit ça publiquement ?
Elle a dit ça, effectivement. C'était une réaction publique de la chancelière. D'accord. Qui a réagi donc d'une manière assez sèche. Oui. à cette interview. Il faut juste mettre un tout petit peu en perspective. C'est vrai qu'on est cette semaine dans ces commémorations des 30 ans. Les États-Unis ont beaucoup aidé l'Allemagne à se réunifier. La chancelière de cette Allemagne réunifiée ne peut pas, cette semaine, critiquer l'OTAN. D'accord. Il faut se rappeler aussi qui est Merkel. Elle a dit dans une interview cette semaine que quand elle était jeune fille, jeune femme en RDA, elle rêvait de pouvoir un jour aller aux États-Unis, être sur les routes en toute liberté, les routes du Colorado en écoutant Bruce Springsteen. C'était son rêve. Il y a un rêve américain de Merkel. Il y a un rêve américain de Merkel. Ce n'est pas un rêve français, ce n'est pas un rêve européen. Il faut le dire, c'est vrai. C'est une femme qui rêvait des États-Unis. Et donc, dans cette semaine, elle ne pouvait pas franchement critiquer l'OTAN.
D'accord. Et alors, au-delà de la réaction d'Angela Merkel, Justin Weiss, vous êtes historien, mais vous êtes aussi spécialiste de géopolitique.
Vous savez, il y a un adage qui dit « Tout pays a une armée, la sienne ou celle d'un autre pays ». Et quand on réfléchit aux implications de cet adage, on voit bien que ça reflète ce qui s'est passé en Europe pendant la guerre froide, très largement. C'est-à-dire que l'Europe avait une armée, c'était très largement l'armée américaine. Alors évidemment, il y a eu des efforts. La France, par exemple, a construit sa propre dissuasion nucléaire et évidemment ne s'est pas désarmée. Mais pour le reste de l'Europe, et c'est ça qui explique la réaction de la chancelière Merkel et d'autres Européens, on s'en est remis à la protection de l'OTAN. Et c'était nos alliés, c'était naturel. La métaphore qu'emploie le président Macron dans son interview, c'est celle de la mort cérébrale. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que le corps, lui, va bien. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a...
Vous rigolez, la mort cérébrale, c'est ce qui permet d'identifier la mort tout court, je vous rappelle.
Bien sûr, bien sûr. Mais le corps, lui, existe encore. Les coopérations entre armées existent, etc. Mais en effet, on a d'un côté une Amérique, des États-Unis qui ne veulent plus jouer ce rôle de garant, de protecteur. De l'autre, une Turquie, en effet, qui se moque bien des positions des autres pays qui intervient en Syrie sans coordination.
Oui, donc je vous adjuge sur ce point. Donc, quelque part, Emmanuel Macron répond à Donald Trump et à Erdogan. Si je prends le vocabulaire un peu bête des gosses qui se disputent, c'est Trump qui a commencé. C'est Trump qui a dit que maintenant c'était aux Européens à assumer eux-mêmes leur défense et qu'il y en avait marre que les États-Unis payent pour les autres.
Bien sûr, mais là on a, en fait, cette interview était vraiment sur la souveraineté européenne. Et le problème de la souveraineté européenne, c'est qu'elle n'est pas également souhaitée par tous les Européens. Mmh. Et si on veut construire une Europe vraiment souveraine, il faut aller beaucoup plus loin en matière de défense commune. Or, pour l'instant, la plupart des autres Européens se reposent sur le parapluie américain et sur l'aide américaine. Et cette interview était destinée à créer un électrochoc précisément pour les inciter à faire davantage en Européen.
Hélène Kohl, je vais vous laisser les dernières secondes pour conclure. Est-ce que l'Allemagne est prête à s'engager vers une souveraineté européenne ?
Alors, l'Allemagne va devoir se poser la question de manière urgente. Ça fait déjà plusieurs années qu'on dit que l'Allemagne va devoir se poser la question.
Oui.
On voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. La patronne de la CDU, celle qu'on présente comme la dauphine pressentie de Merkel, oui. Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est actuellement ministre de la Défense, met les pieds dans le plat depuis 3-4 semaines.
Il vous reste 10 secondes.
Exactement, en demandant notamment que l'Allemagne s'investisse davantage financièrement, mais aussi sur les terrains d'opération.
Tous les espoirs ne sont pas perdus. Mille merci à la chancelière des correspondantes à l'étranger, notre amie Hélène Kohl, à Justin Weiss, directeur du Forum de Paris pour la paix. Et pour terminer, et pour essayer de mettre un peu de douceur et d'amour dont on a tous besoin, en hommage à une grande dame qui est morte cette semaine, Marie Laforêt, écoutez la chanson « La tendresse ».
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs.
Jusqu'à la fin des jours, cette chanson a été écrite par Noël Roux, composée par Hubert Giraud et avait d'abord été interprétée par Bourvil en 1963. C'est Marie Laforêt qui l'a reprise l'année suivante.